Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Ainsi soit-il. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De la petite maison et entre. Ah, te voilà à toi! Il sursaute et voit ses parents en robe de chambre et pantoufles. J'en ai assez de te voir traîner dehors comme ça. J'aimerais savoir ce que tu fais avec tous ces vauriens qui traînent avec toi. Il ne fait rien de mal. T'en prie, Jean, tu prends toujours son parti. Depuis qu'il est né, je n'existe plus. Il n'y en a que pour lui. Tu es toujours à ses pieds et à le vénérer. Je me demande bien pourquoi il ne fait rien. Monsieur n'a pas voulu continuer ses études à apprendre un métier. C'est normal, je suis là pour subvenir à ses besoins. Je suis le père nourricier, comme on dit. Mais c'est tout. Je n'ai le droit de rien dire. Monsieur passe ses journées avec une bande de jeunes à philosophie sur la vie. Pendant que moi et les autres travaillent. Ah, mais si tu crois que ça va durer éternellement cette histoire, au village on commence à zarder. Les parents se plaignent que tu endoctrines leurs enfants. Ils ne travaillent plus eux non plus. Ne pense que par toi. Fais attention, car un de ces jours ça va aller mal. Jacques est en sueur. Il éponge son front avec un mouchoir. Sa femme s'approche de lui. Attention à ta tension. Mais comment veux-tu que je puisse faire attention à ma tension avec ce vaurien pareil? Il me tuera. Elle prend son mari à la taille. Allez, viens, il faut aller nous coucher. Luc, promets à ton père d'être plus sérieux et de penser à ton avenir. C'est ce que je fais, mère. Le père furieux se redresse et lui dit, passant les journées à discuter avec une bande de jeunes. Oui, père. En faisant cela, je prépare mon avenir, c'est-à-dire mon salut. Comment cela? En obéissant aux ordres de mon père, qui m'a dit de semer la bonne parole. C'est moi qui t'ai dit ça? Non, mon père qui est aux cieux. Il parle comme un prêtre, il est complètement fou celui-là. Allons, allons nous coucher, je sens le sang qui va me bouillir. Bonne nuit, Luc. Bonne nuit, mère. La mère monte à l'étage en maintenant son mari. Elle est plus petite que son mari. Ils sont tous deux gros et larges. Le père est chauve et porte une grosse moustache noire. Il a les yeux qui lui sortent de la tête. La mère a les cheveux tenus en chignon et ils sont gris. Elle a un visage très doux. Ils sont tous deux en robe de chambre de laine bordeaux. Luc, lui aussi, monte à l'étage. Il a 33 ans et en paraît 25. Il est grand, mince, les cheveux blonds, les yeux bleus d'un bleu roi. Son visage est d'une très grande douceur. Il est habillé d'une saharienne et d'un pantalon blanc. Les escaliers sont en bois et sentent la cire. Au premier étage se trouve un petit palier. Il y a la chambre de ses parents, la sienne et un cabinet de toilette. Luc entre dans sa chambre. C'est une petite pièce carrée à tapisserie bleue. Il y a un lit à une place en bois, une table de nuit et une armoire. Les meubles n'ont pas de style, car tous les meubles ont été faits par le père qui est menuisier. C'est par économie et par amour du travail. Ils ont surtout un côté utilitaire. C'est un menuisier et non un ébéniste. Le père Jacques a fait ce qu'il a pu. Luc se déshabille. Il est 3 heures du matin. Après s'être déshabillé, il se couche en slip. Il fait très chaud, nous sommes en juin. La tête derrière la nuque, il attend le sommeil. Il faudrait que je fasse des efforts pour Jacques. Je devrais rentrer plus tôt. Mais c'est toujours pareil. Lorsqu'on en est pris avec les jeunes, ils vous posent des questions, et on ne voit plus l'heure. Le lendemain matin, il prend son petit déjeuner à la cuisine. Il est 9 heures. Sa mère est assise en face de lui. Elle est habillée avec un tablier bleu. Tu devrais faire un effort pour ton père. Chercher du travail. Il est vrai que tu ne peux pas rester éternellement comme cela. Que vas-tu devenir plus tard? Ne vous en faites pas, mère. On y pourvoira pour moi. La mère hausse ses épaules. Qui? Celui qui a ma destinée entre les mains. Il se lève de table. Que vas-tu faire? Travailler pour lui. Il se penche et embrasse sa mère sur le front. Puis, il sort de la cuisine. Monte à sa chambre. Pense à sa saharienne et sort. Le ciel est bleu. Devant la petite maison se trouve un jardin en friche. Elle se trouve en dehors du village de Perel dans le Midi. Elle est entourée de petites collines avec très peu d'herbes et d'arbres. La petite route qui mène au petit village 5 minutes plus loin. Là, juste avant d'entrer au village, Il sort d'une maison un jeune homme habillé lui aussi de blanc, chemise et pantalon. Il est légèrement plus petit que Luc, cheveux châtains, visage très enfant. Il a 22 ans mais paraît plus jeune. Lorsque Luc est près de lui, il lui dit « Bonjour Luc. Bonjour Sylvain. Où vas-tu Luc? Où mes pas me mèneront? Je vais avec toi, comme tu veux. » Et il se met en marche. Lors d'après toi, Dieu aime les pécheurs. Oui, car ils ont beaucoup à se faire pardonner. Ce n'est pas juste qu'il préfère les pécheurs aux autres. Il ne les préfère pas, mais il aime pardonner, car Dieu est amour. Est-ce que tu crois que les occupants, eux aussi, seront pardonnés? Pourquoi pas? Et puis parmi l'armée, il y a de braves gens qui subissent ces événements, eux aussi. Que faut-il faire contre le mal, le bien, et aimer son prochain comme soi-même? Arrive sur la place du visage, où se trouve une fontaine qui a été asséchée par la sécheresse. Autour de la place se trouve la mairie, la petite église et un hôtel qui pour le moment est occupé par l'armée allemande. Sur le balcon du premier étage, on a mis un drapeau à croix gammée. Il y a à l'entrée un planton allemand. Les Allemands n'ont pas mis leur commandanture ici à cause des difficultés qu'ils auraient avec les habitants du village, mais c'est dû à un point de vue stratégique. Arrive vers eux un jeune homme d'une très grande stature. Il a les cheveux et une barbe abondante noire. Luc lui tend la main. « Bonjour Marc. »«
Bonjour Luc. » Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent t'entendre et te voir. Ils veulent que tu organises une manifestation contre l'occupant et la guerre.
Je ne le peux pas, Marc. Les manifestations sont interdites. Tu le sais très bien que je n'enfreins jamais les lois.
Alors comment peux-tu changer le monde?
Par la compréhension, en leur faisant comprendre qu'ils doivent changer, et par l'amour aussi.
Et que comptes-tu te faire de ces jeunes qui viennent de toute la région?
Nous parlerons, nous discuterons. Marc, tu vas chercher un endroit où l'on puisse se réunir. Et toi, Sylvain, viens avec moi. Tu me serviras de secrétaire. Sonnez à la porte. Jeanne, qui était à la cuisine à faire les confitures, va ouvrir la porte. Ah, c'est vous, monsieur le curé?
Oui, ma bonne madame Jeanne. Je peux rentrer?
Oui, bien sûr. Et il entre.
Il ferme la porte.
Le curé est un gros et grand homme. Il a la soixantaine. Il a une tête ronde et il lui reste quelques cheveux sur la tête. Cheveux débonnaires, mais son visage a une physionomie très autoritaire. Jeanne le fait entrer au salon.
S'assoient tous deux dans un fauteuil, l'un en face de l'autre.
Ce que j'ai à vous dire n'est guère plaisant. Votre fils trouble la sérénité de notre petit village. Le maire, le commandant de la commandanture, est d'accord avec moi. Il embrigade les jeunes gens des environs. Il est devenu un chef de bande qui parcourt les environs tous les après-midi. Les parents sont furieux, les enfants ne leur obéissent plus. Mon église se déremplit de plus en plus. Pas un seul jeune ne va à l'église. Vous m'entendez? Pas un seul jeune. Cela ne peut plus durer. Il faut que vous parliez à votre fils. Il ne faut plus qu'il passe toutes ses journées à haranguer la jeunesse.
Prêtre hausse les épaules.
Ne le comprend pas que vous le laissiez agir de cette manière. Ce n'est plus un adolescent. Il a 33 ans. À son âge, l'on doit être marié et avoir un emploi. Il hausse ses épaules encore une fois.
Ça
vous regarde. Si vous voulez entretenir votre fils comme ça, mais les troubles qu'il fait à la commune, là, ça nous regarde tous. Alors parlez à votre fils. Et puis j'aimerais que vous le fassiez aller à l'église. Cela ferait revenir les jeunes. Vous m'avez bien compris, ma bonne Jeanne.
Oui, monsieur le curé.
Je l'espère, car un jour il pourrait arriver un malheur. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un groupe de maquisards dans les environs. Les Allemands peuvent se tromper et prendre mon fils et sa bande pour eux. Le prêtre se lève.
Allez, je te laisse. Au revoir, ma bonne Jeanne.
Et il sort de la pièce.
Jeanne le suit. Ouvre la porte d'entrée. Il sort.
Au revoir, monsieur le curé.
John prend peur de ce que lui a dit le curé, car il pense que c'est une menace camouflée. Soir, lorsque Luc entre, lui dit qu'elle a à lui parler. Et le mène à la cuisine. S'assoivent à table l'un en face de l'autre.
Écoute, Luc, le curé est venu. Il est très irrité contre toi. Il veut que tu ailles à la messe pour que les jeunes du village y retournent.
Non, je n'irai pas. Son église n'est pas mon église. C'est devenu l'église des marchands et des petits bourgeois. Je n'ai rien à y faire là-bas.
Écoute, fais-le pour moi. Si tu ne le fais pas, il t'arrivera un malheur.
Et que veut-il qu'il m'arrive?
Le maire aussi est contre toi et les Allemands. Et si tu n'obéis pas, on pourra t'arrêter.
Qui s'essaye?
Je t'en prie, pour une fois obéis à ta mère. Il faut faire ce sacrifice pour moi.
Elle a les larmes aux yeux.
Fais être inquiète jusqu'à ce que tu le fasses.
Sèche tes larmes. J'irai si ça peut te tranquilliser. Mais je ne sais pas si je pourrai me domimer une fois là-bas. Dimanche suivant, Luc a accompagné sa mère à l'église. cours de l'office, tout se passe comme il faut. Luc reste sagement auprès de sa mère. Et les gens l'observent d'un herbe corps.
Gloria in excelsis Deus, et in terra pax hominibus, omne voluntatis.
Maar eet het met mijn garçon.
Dans le pavé de l'église, il est accosté par des paroissiens. La cohue a dispersé la mère et le fils.
Alors, te revoilà de nouveau.
Qu'avais-tu contre notre église ? Luc est furieux. Durant toute la messe, il s'est retenu. Mais maintenant que sa mère est loin de lui, et puis tous ces gens qui l'entourent et se moquent, cela est trop.
Vous voulez savoir ce qui me déplaît dans votre église ?
C'est l'argent, les troncs, les cierges, les livres que l'on vend. Les idoles, oui, vous idolâtrez Dieu et ses saints comme les païens en les représentant sur des tableaux et des statuettes. Ce sont surtout vous qui allez à l'église pour vous faire bien voir, pour tenir votre rang de petit bourgeois bien pensant. Oui, vous, homme sans foi, qui pensez qu'à vous enrichir. Je ne vous aime pas et Dieu non plus. Le royaume des cieux ne sera pas pour vous. Seuls les pauvres pourront accéder aux richesses du ciel. Les gens ne bougent pas. Le prêtre s'approche de la foule et fait face à Luc. De quel droit te permets-tu de juger mes paroissiens, mon église ?
Du droit que Dieu m'a donné.
Et pourquoi Dieu t'aurait-il donné ce droit ?
Dieu l'a donné à chaque homme. Il lui suffit de lire la Bible et de regarder autour de lui.
Et toi, que penses-tu de ce que tu es ?
Moi, je suis comme Dieu m'a fait.
Les autres aussi ? Dieu a laissé les hommes libres de suivre ou de ne pas suivre ses commandements.
Tu as raison, mais la richesse est-elle un péché ?
Non. Ça ne nuit pas à autrui et ce n'est pas le but principal de la vie.
Et la foi que nous pratiquons d'après toi n'est pas une bonne foi, c'est une foi païenne.
Oui, si vous honorez Dieu comme une idole.
Et c'est ce que l'on fait.
Regarde autour de toi. Luc se retourne et se freine un passage. Sa mère, qui était dans la foule, en fait autant. Elle est rouge de honte et a peur pour son fils.
Cela finira mal, très mal. Mon Dieu, protégez mon fils.
Après-midi, Luc, Sylvain et Marc se promènent aux alentours du village. Il fait chaud, très chaud. Ils ont soif. Ils passent devant une ferme. C'est la ferme d'une jeune veuve de 22 ans. C'est Julie. Lorsque les trois hommes passent devant la ferme, Luc s'arrête et dit
« Si nous demandions à boire à cette femme ?»
Marc lui dit
« Tout par là, Luc !»
« Pourquoi ?» Parce que c'est une pécheresse.
Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre.
Allons, venez. Je suis sûr que nous serons bien reçus.
dans la cour de la ferme. Luc frappe à la porte. Porte s'ouvre. Deux femmes grandes, minces, cheveux noirs longs, les yeux sombres et un sourire futé. Elle est habillée d'une robe noire avec un décolleté très avantageux.
Vous, vous êtes Luc, non ?
Oui, nous avons frappé, c'est pour vous demander si vous pouviez nous donner de l'eau.
Entrez, je vous en prie.
Ils entrent dans la pièce, c'est une pièce sombre et fraîche. J'ouvre les volets pour faire entrer la lumière.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Ils s'assoivent tous autour de la table.
Vous voulez de l'eau ou bien du lait ? Je ne vous propose pas du vin, car je sais que vous n'en buvez pas.
Luc lui dit : De l'eau, cela suffira. Pendant qu'elle va chercher une bouteille d'eau fraîche sous l'évier, Luc lui dit :
Tu as l'air d'être très au courant sur nous.
Oui,
je me renseigne sur tout ce que vous dites ou faites.
Elle leur apporte la bouteille et les verres et les dépose sur la table, puis les serre.
Tu en as eu du culot dimanche dernier. Tu y étais ?
Non, tu penses bien qu'il ne m'accepterait pas.
Et pourquoi ? Tu es une femme comme eux.
Je suis une pécheresse.
À leurs yeux, je ne suis qu'une pécheresse.
Et alors, eux aussi ?
Toi, tu m'accepterais dans ton groupe ?
Je ne suis pas un groupe. Je représente la lumière pour tous les êtres.
Oui, je t'accepterai dans mon royaume.
Il est ouvert à tous ceux qui le veulent.
Mais il faut faire un effort.
S'assoit en face de lui, l'air ému.
Lequel ?
Suivre les commandements de mon père.
Et c'est tout ?
Oui, mais c'est beaucoup. Très peu d'hommes arrivent à vivre comme Dieu le veut.
Moi, je veux bien essayer. Donne-moi ces commandements.
Bien, nous allons commencer alors. Aime ton prochain comme toi-même et Dieu de tout ton corps.
Ils sortent de la ferme. Sur le chemin du retour, Luc dit :
Vous voyez, il ne faut pas désespérer des pécheurs. Nous avons bien fait de frapper à sa porte.
Tu as bien fait, lui dit Sylvain.
Luc s'arrête, prend la tête de Sylvain, la met sur son épaule et lui caresse ses cheveux.
Ne sois donc pas tant si émerveillé par moi. Je ne suis rien. Tout ce que je fais, je le fais parce que Dieu me le dit. Sylvain et Marc vont sur la côte. Okay. Ont fait du stop et ont été pris par un camionneur.
Mais ça, coup de bloc. Voilà dans le dos.
Arrivés sur la côte, ils se sont allongés sur le sable. Le ciel est bleu, il fait très chaud. Arrive vers eux un jeune homme d'un les 25 ans. Brun, grand, mince, visage agréable qui a une certaine distinction. Il est en maillot de bain blanc. Bonjour Luc, Sylvain et Marc.
Bonjour Paul.
Faites-vous ici?
Luc lui répond. Tu vois, nous nous reposons.
Paul s'assoit à côté d'eux. Père ne veut pas que nous nous revoyions. Moi, je ferai tout pour vous revoir.
C'est vrai que tu révolutionnes tout le village?
Les gens exagèrent.
Passe l'après-midi à discuter sur la plage. Le soir, Paul décide de les accompagner jusqu'au village. Ils reprennent le même camion. Sur la place du village, Luc dit au revoir à ses amis. Il tend la main à chacun, mais donne un baiser sur la joue à Sylvain. Paul, en les voyant, souffre. Il aurait aimé être l'ami de corps de Luc. Chez lui. Il habite une belle demeure dans une rue résidentielle. Mon père est propriétaire de la seule usine du coin. C'est une entreprise de textile. Paul trouve son père au salon. C'est une immense pièce meublée Louis XIII. Ils sont tous deux debout.
Qu'as-tu fait aujourd'hui ?
Paul est plein de la tristesse du baiser de Luc à Sylvain. Parler de Luc lui fera du bien.
J'ai rencontré Luc.
Le père fronce ses sourcils.
Je ne veux pas que tu fréquentes cet individu. C'est dangereux, c'est un subversif, un meneur de troubles. Tu risquerais d'avoir des ennuis. Ce n'est pas le moment. Je viens de signer un contrat très important avec l'Allemagne. Ça va nous rapporter gros. Tu comprends? Si tu te fais pendre avec ce voyou, non seulement tu iras en prison, sera le déshonneur, mais en plus tu perdras tout. Écoute, tu t'es déjà mis dans le pétrin en t'affichant avec lui. Tu peux te faire pardonner cette erreur de jeunesse, aidant les Allemands à le prendre.
Toute la nuit, Paul réfléchit. Durant la même nuit, des résistants ont fait exploser un garage plein de munitions. On pense que c'est Luc et ses amis qui l'ont fait. Le commandant allemand fait venir dans son bureau le maire et le curé. « Il faut que vous trouviez le coupable de cet attentat. Sinon, c'est vous qui payerez. » Le maire réunit le conseil municipal. Le curé y assiste exceptionnellement. Le maire, après avoir expliqué ce qu'ils voulaient les Allemands, leur dit « Que faire ? Leur donner les résistants ? Et là, lorsque la guerre sera finie, nous aurons à répondre de ce geste. Ou alors, peut-être, leur donner une autre personne. Et dangereuse pour la société. Même plus dangereuse que les Allemands. Parce qu'eux nous attaquent. Mais ils font la guerre avec des armes, tandis que l'autre, c'est avec des mots. Ses idées sont plus terribles que tout. La preuve, il a pris aux parents leurs enfants, fait déserter l'église. Luc, sous ses idées religieuses, est en réalité un communiste sous les ordres de la Russie. Ce doit être un espion. Qu'en pensez-vous ? Tous se taisent. Nous n'avons pas de choix, c'est lui ou nous. Oui. Si nous livrons les véritables coupables à la libération, ce sera à notre tour d'être exécutés. Tandis qu'avec l'autre, nous ne risquons rien. Un communiste, personne ne s'en souciera. Un membre du conseil demande ce qu'en pense le curé. Ma foi, si une mort pour en sauver d'autres, il n'y a pas à hésiter. Le maire reprend la parole. Il est bien certain que tout ce que je viens de dire fera être divulgué. Maintenant, passons au vote. De son père qui fait partie du conseil municipal que l'on va arrêter Luc. Il court prévenir Luc. Luc se sauve et se cache dans la campagne avec Paul, Sylvain et Marc. Et nuit, ils sont au pied d'une colline assis à terre autour de Luc. S'il m'arrive quoi que ce soit, restez ensemble et n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Tous trois le promettent. Dormons maintenant. Chacun s'allonge à terre sous des couvertures. Deux heures plus tard, Marc est secoué et réveillé. C'est Luc. Il lui fait signe de se taire et de le suivre. Ils vont dans un coin retiré. Écoute, Marc, je te fais mon successeur. Vu que je ne suis pas digne, c'est moi qui décide si tu es digne. Marc, je veux que tu continues mon œuvre et que tu bâtisses mon église. Luc sort de sa chemise un papier. Voici les commandements de Dieu. Et il les lui donne. Va te coucher maintenant, Marc. Marc retourne se coucher.
marche vers Sylvain pour le réveiller. Paul se réveille lui aussi. Une fois que Sylvain est réveillé, lui qui dit « Tu seras toujours le bien-aimé. Je te promets que nous reverrons au paradis. » Mais Sylvain n'a pas pu en dire plus. Luc lui a mis la main sur la bouche, puis s'est penché et l'a embrassé sur le front. Ensuite, il lui a dit « Rendors-toi ». Paul a tout vu et entendu. Il a mal au cœur. Dans la matinée, Paul s'approche de Luc qui est à côté de Sylvain. Ils sont tous les trois debout. « Luc, je dois partir. Il faut que je voie ma mère. »« Eh bien, pars, Paul. » Paul s'approche de Luc et l'embrasse sur les lèvres. « Adieu, Paul. Adieu, je reviendrai. » Et il s'éloigne en regardant Sylvain et Luc. La journée se passe et Paul ne revient pas. La nuit arrive. Ils sont assis tous les trois à terre. Luc coupe le pain et les distribue. Mangez et buvez. C'est la dernière fois que nous sommes ensemble. Pourquoi dis-tu cela ? Dit Sylvain. Parce que dans la nuit, on viendra me chercher. Et il ne faudra surtout pas me défendre ou résister. Vous ne risquez rien. C'est moi que l'on veut. Pourquoi dis-tu cela ? Demande Marc. Parce que c'est ainsi. Après avoir mangé en silence et bu, faut que vous vous couchiez maintenant. Et vous ? Moi, je les attendrai, Marc. Mais il faut que tu me promettes une chose. C'est de m'obéir jusqu'à la fin. Que veux-tu que je fasse ? Tu devras, pour la survie de l'Église, rogner pour te sauver. Mais Luc, chut, fais ce que je te dis. Je te le promets. Maintenant, allez dormir. Sylvain s'est levé et est allé auprès de Luc, qui est debout appuyé à un olivier. « Mon Dieu, donnez-moi la force de supporter la souffrance. Ne m'abandonnez pas. » Sylvain lui met la main sur l'épaule. « Luc, sauve-toi. Pourquoi dois-tu souffrir ?»« Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour purifier les hommes. »« Je ne veux pas. Chut. Ce ne sera qu'un mauvais passage. » Après, je ressusciterai parmi les morts. Luc est assis à terre, les jambes allongées. Sylvain est assis à ses côtés. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est la résurrection. Embrasse Sylvain sur le front. Et ils restent tous deux allongés à terre toute la nuit.
voiture et un camion arrivent vers la clairière. La voiture, le maire et le curé, et du camion, les hommes du village. Le maire s'approche de Luc.
Nous devons t'amener, Luc. Tu dois être jugé.
Je viens.
Tu ne résistes pas.
Non, c'est la volonté de Dieu. Les villageois emmènent Luc et ses deux amis. Ils les mettent dans le camion.
Au village, on le mène chez le commandant allemand dans son bureau.
Ils sont reçus debout. Le maire dit en désignant Luc :
voici le coupable.
Le commandant s'approche du maire et de Luc.
Puisque c'est vous qui le dites, que c'est le coupable. Le faiseur de troubles, moi je m'en lave les mains. Et les deux autres.
De pauvres innocents, ils ne savaient pas avec qui ils étaient. Ils étaient avec lui, c'est tout.
De pauvres simples. Le commandant s'approche d'eux.
C'est vrai.
Sylvain va ouvrir la bouche, mais Luc le regarde et il se tait. Le commandant s'approche du maire.
Exécution immédiate sur la place du village. Dans une heure, tout le village sur la place pour assister à l'exécution.
Il s'approche de Luc.
Qu'as-tu à dire pour ta défense?
Je crois en Dieu.
Un illuminé. Les plus dangereux. Et si les Français me disent que c'est lui, préparons l'exécution.
Une heure plus tard, Luc a été fusillé devant le village assemblé.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Ainsi soit-il. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.